Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Prions, si vous le voulez bien. Père d'amour et de lumière, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de nous présenter devant toi. C'est un ordre que tu nous donnes pour ton saint sabbat. Mais aussi, c'est un plaisir pour nous de venir avec toi, de passer du temps avec toi aujourd'hui pour apprendre davantage tes voies, qui sont merveilleuses. Nous te demandons de bénir le temps que nous avons ensemble, de bénir ce message. C'est ton script à toi, c'est ta connaissance et c'est toujours un plaisir de pouvoir puiser dans cette source de connaissance qu'est la tienne. Nous te demandons d'être avec nous tous, où que nous nous trouvions dans le monde, et de bénir ce message et de bénir ton sabbat. Et nous te demandons ces choses, Père Saint et grand Dieu d'amour, dans le nom et de par l'autorité de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Nous aimons tous David. Il est généralement l'un de nos héros favoris, avec lequel nous nous identifions souvent. Quand nous étudions sa vie, nous nous reconnaissons souvent en lui. David était un grand roi, et il règnera sur les tribus d'Israël dans le monde à venir. Il était humain, comme vous et moi. Il avait, comme nous, des qualités et des défauts, des faiblesses. Mais c'était malgré tout un roi remarquable, un homme remarquable. Et j'ai hâte de le rencontrer. Quand il péchait contre l'Éternel, il finissait toujours par se repentir, amèrement, et par changer ses voies. Nous devrions faire de même. Les aventures qu'il eut nous fascinent et nous aident à faire le point dans notre vie. L'un des moments de sa vie où il n'était plus très proche de notre Père Céleste évoque le besoin pour nous, pour tout être humain, de développer trois qualités divines clés à acquérir pour entrer dans le royaume et hériter la vie éternelle. Je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous une période où David et Israël se mirent à se fier à eux-mêmes, oubliant que toute leur victoire et toute leur bénédiction venaient de l'Éternel. Et je veux parler de trois qualités que j'évoque régulièrement dans mes messages et qui courent en filigrane dans ce récit que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Une étude attentive des Écritures révèle que lorsqu'eut lieu l'incident dont nous allons parler se produisit, David et une grande partie du peuple s'étaient mis à s'appuyer sur leur propre force et sur leur propre sagesse. Ils avaient perdu de vue ce que l'Éternel accomplissait. Leur attitude laissait à désirer. Et l'Éternel donna à Satan la permission de séduire David afin de l'éprouver et d'éprouver Israël. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à 1 Chroniques chapitre 21 et le verset 1. 1 Chroniques chapitre 21 et le verset 1. En Chronique 21, Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. « Oh, mon roi! Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Il est clair que Joab, lui, mesurait la gravité d'une telle entreprise. Mais il est clair que David, à ce moment-là, dans sa vie, n'avait pas la tête où il fallait. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 400 70 000 hommes tirant l'épée. Israël et Juda avaient donc réuni une armée de 1 570 000 soldats, ce qui était considérable. Mais là n'était pas la question. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin. C'est intéressant. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais probablement qu'eux se seraient opposés. Intéressant qu'ils sont devenus après le ministère. Mais là encore, Joab avait la tête sur les épaules et David non. Il se rendait compte que ce dénombrement était une abomination aux yeux de Dieu. Verset 7, cet ordre déplut à Dieu. Et il frappa Israël, Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. » Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'ornant le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'ornant le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait annoncée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. » Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. Et David fait preuve ici d'honnêteté. Il ne cherche pas à se procurer quelque chose gratuitement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Cet incident évoque pour nous la nécessité de développer 3 qualités essentielles dans la vie du chrétien, et sur lesquelles je voudrais que nous nous concentrions aujourd'hui. L'humilité, l'honnêteté et le courage. Dans ce fâcheux incident, David manqua d'humilité. Il manqua aussi d'honnêteté. Et je veux parler d'un type spécial d'honnêteté, celle que tout chrétien doit développer. Humainement parlant, il fut honnête avec Ornan, c'est certain, mais il n'avait pas été honnête envers lui-même et, dans le cas présent, envers l'Éternel. David ne manquait pas de courage, mais son courage fut d'abord mal canalisé. Il sut cependant par la suite reconnaître ses torts et eut le courage de s'acquitter de ses responsabilités et de rectifier le tir. Nous avons tous besoin de plus d'humilité. S'il y a quelque chose qui manque souvent, même dans l'Église, dans les Églises de Dieu, aujourd'hui, c'est bien la vraie humilité. Nous avons certes des membres humbles, mais l'humilité ne nous décrit pas tous. Et cela est généralement dû aux diverses déceptions éprouvées ces dernières années par bon nombre d'entre nous face au comportement de certains individus qui se sont mal comportés. Mais nous sommes en 2018, frères et sœurs. Et, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Paris. On nous a déçus, certes, mais cela excuse-t-il ou justifie-t-il un manque assez fréquent d'humilité de notre part? Il importe que nous ayons la vraie humilité, que nous soyons accessibles, courtois, malléables, objectifs. Dans l'incident que nous venons de voir, David cessa d'être accessible, d'être courtois, d'être malléable et objectif. Et il arrive que ce soit notre cas également. Christ, notre Maître et Sauveur, bien qu'étant Dieu, était pourtant humble. Oui, lui, il était humble. Lui, Dieu, il était humble. Il était aussi doux. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11 et le verset 29. Je pense qu'il faut que nous comprenions bien cela. Matthieu chapitre 11 et le verset 29. Christ dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Christ, comme l'a précisé Pierre dans 1 Pierre 2, 21, nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces, et dans ce passage, la souffrance est associée à cet exemple. Christ était doux et humble de cœur, et il souffrait souvent du fait de son humilité. Sommes-nous disposés à souffrir pour faire ce qui est juste, frères et sœurs? Nous vivons dans un monde où l'on pratique l'hédonisme. On recherche le plaisir, la satisfaction de soi, le confort et la facilité, surtout en Occident. Et on attend des autres la perfection. On fait souvent preuve de fausse humilité. L'orgueil n'est jamais mieux déguisé que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité, disait François de La Rochefoucauld. Comme je le disais, l'humilité est un trait de caractère qui se fait rare. Paul, il y a près de 2000 ans, notait un problème qui n'a certes pas disparu en ce 21e siècle. Nous ferions bien de nous inspirer de ses propos et de nous interroger personnellement. Reportons-nous à Romains chapitre 12 et le verset 3. Romains chapitre 12 et le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est facile d'avoir une trop haute opinion de soi-même. c'est humain. Il est facile de se dire qu'on est l'autorité suprême, qu'on comprend, et les autres, non, ou pas autant. L'humilité est la beauté de l'âme, disait Anne Baratin. La foi est le principe de la vertu, la charité en est l'essence, et l'humilité, l'arôme, disait Alfred Auguste Pilavoine. Notre humilité est-elle un arôme, un parfum d'une agréable odeur à l'Éternel, de l'encens dans ses narines? L'humilité du cœur se rencontre encore moins souvent que la justesse de l'esprit, écrivit Henri Frédéric Amiel, comme il avait raison. Et il disait cela il y a 200 ans. C'était alors le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. La vanité cherche les applaudissements des hommes. L'humilité demande leur oubli, écrivit Joseph-Michel-Antoine Servan. Qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui ne cherche pas à se vanter. Il faudrait, comme le disait Alfred Auguste Pilavoine, que, je cite, « l'humilité soit la vie de l'esprit et notre pureté celle du cœur ». Le même auteur a écrit quelque chose que je trouve fort pertinent. Il a écrit ce qui suit. « Ceux qui prennent l'humilité pour de la bassesse ne sont pas dignes d'acquérir cette vertu. Pour être humble, il faut avoir son néant. Il faut voir son néant. » Intéressant. Il faut voir son néant. Et les petites âmes ne le voient pas. Amusées par la vanité, elles vivent dans une illusion perpétuelle. Et la mort seule peut leur ouvrir les yeux. Il y a une grande sagesse dans ces propos. Le même auteur écrivit encore que l'orgueil satanise nos passions. Intéressant, hein, comme il tourne cela. L'orgueil satanise nos passions et l'humilité les divinise. En ce bas monde, effectivement, on pense souvent que l'humilité est synonyme d'infériorité ou de bassesse. Pas selon ses auteurs et pas selon notre Père Céleste non plus. Henri Frédéric Amiel avait raison de dire que la couronne de la vraie grandeur, c'est l'humilité pour soi-même et la bonté pour les autres. Le même auteur écrivit en outre « L'habileté, c'est de paraître ce qu'on est. L'humilité, c'est de sentir qu'on est peu de choses. » Il écrivit également que le respect de soi-même est la lettre de créance parmi les hommes, mais l'humilité en est le passeport. Voilà un homme qui avait une bonne idée de ce qu'est la vraie humilité. L'âme du juste s'élève comme la flamme, le zèle et l'humilité sont ses ailes, disait encore Edward Young. L'humilité est un sentiment de tristesse qui provient de ce que l'homme contemple son impuissance et sa faiblesse, disait Baruch Spinoza. L'humilité n'est pas l'abjection, elle est le correctif de l'amour-propre, disait Voltaire. Et il disait aussi que l'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Ces réflexions font écho à ce que Christ disait, à ce que Christ enseignait. Reportons-nous à Matthieu chapitre 23 et le verset 12. Matthieu chapitre 23 et le verset 12. Quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ce qu'avait dit Christ bien longtemps avant tous ses auteurs. Mais au moins, eux, ils ont compris. Pierre a repris ce thème, sans doute parce qu'il sentait le besoin d'en parler aux membres de l'Église. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, il semble s'adresser ici essentiellement aux jeunes, soyez soumis aux anciens. Mais ensuite, deuxième phrase, et tous, cela implique maintenant tout le monde, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ce temps convenable sera probablement dans le royaume pour la plupart d'entre nous. Pierre ne nous a pas donné ici une simple suggestion. Quand il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu », pour quiconque est conscient de ses responsabilités, c'est un ordre. Pierre parlait aux chrétiens de son temps. Il nous parle aussi à nous. Salomon nous a laissé un précieux conseil d'une sagesse éternelle, un principe spirituel qui s'applique aussi bien aux créatures angéliques qu'aux humains. Bon, il y est question du cœur de l'homme dans ce passage, car c'est à des humains que la Bible s'adresse, mais c'est en fait un principe éternel. Reportons-nous à Proverbe 18, Proverbe chapitre 18 et le verset 12, si vous le voulez bien. Proverbe chapitre 18 et le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Avant sa ruine, Lucifer s'est élevé. Donc ça s'applique aux anges aussi. Dans un récent message, je vous parlais de notre gloire future. Cette gloire future, nous pouvons l'obtenir si nous sommes humbles. Il y en a toujours trop parmi nous, même si ce trop n'est qu'un petit nombre, qui s'appuient sur leur propre sagesse, qui n'acceptent aucun conseil et ne s'estiment plus soumis à personne. Désolé, mais ce n'est pas biblique. À ses disciples qui se demandaient qui parmi eux était le plus grand, Christ répondit ceci. Matthieu chapitre 18 et le verset 4. Matthieu chapitre 18 et le verset 4. Matthieu 18, 4. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Paul reprit cet enseignement quand il s'adressa aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Notre époque n'en est pas une d'humilité. Certes, non. Paul évoqua le même thème dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Colossiens, quelques pages plus loin, chapitre 3 et le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La deuxième qualité que nous devons tous posséder si nous voulons entrer dans le royaume est l'honnêteté. L'honnêteté. Si vous voulez que tout le monde vous aime et vous estime, ayez pour tous beaucoup d'honnêteté et de politesse. Si au contraire, par des manières dures, fières et hautaines, vous vous rendez insupportable à ceux qui vous approchent, vos inférieurs vous haïront, vos supérieurs vous mépriseront, et tout le monde se moquera de vous, disait Jean-Baptiste Blanchard. Sophie Cotin disait jadis, « Il n'y a d'honnêteté que dans un cœur pur ». Il n'y a plus guère de nos jours de guerre de cœur pur. L'honnêteté est le premier chapitre dans le livre de la sagesse, disait Thomas Jefferson. Pour être sage, ne faut-il pas d'abord être honnête? Honnête avec les autres, certes, mais plus encore honnête avec soi-même. D'après un vieux dicton français, un boisseau gagné honnêtement vaut mieux que 100 000 procurés par fraude. Ces auteurs ne faisaient que réitérer des vérités éternelles énoncées dans le livre des livres. Proverbe chapitre 11, verset 1. Proverbe chapitre 11 et le verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous étions dans les Proverbes, deux pages plus loin, Proverbe chapitre 13, verset 6. Proverbe chapitre 13 et le verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Et il ne s'agit pas là de platitude, ni de suggestions, de simples idées qu'on apprécie mais qu'on ne pratique pas. La voie divine est une manière de vivre qui exige l'action. Jean a parlé de cela. Et dans la période s'étendant des pains sans levain à la Pentecôte, il est bon que nous méditions ces choses. Il y a dans ce monde beaucoup de beaux parleurs qui disent de belles choses, mais qui ne les pratiquent pas. 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3 et le verset 18. 1 Jean 3, 18. Excusez-moi. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Cela rejoint ce que dit Jacques. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Petit mot important. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous connaissez le passage. Qu'est-ce qui nous dirige? Qu'est-ce qui nous motive? Proverbe chapitre 11, verset 3. Proverbe chapitre 11 et le verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. Quand nous pensons à intégrité, il s'agit d'honnêteté, de vérité. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Je ne dis pas que ce soit un problème parmi nous, mais nous avons besoin de penser à cette honnêteté. Tous les jours de notre vie, à chaque instant, pour ainsi dire, est-ce que je suis honnête dans ce que je fais, dans ce que je dis? C'est tellement important. Des millions de soi-disant chrétiens pensent qu'en faisant pénitence après avoir fauté, par exemple, cela va leur procurer les bonnes grâces divines. Je compare la pénitence à des sacrifices. Rien ne sert de faire pénitence. Ce qu'il faut faire, c'est obéir à Dieu. Et bien agir. Bien agir. Proverbe chapitre 21, verset 3, nous étions dans les Proverbes quelques pages plus loin. Proverbe 21 et le verset 3. Proverbe 21, 3, la pratique de la justice et de l'équité. Honnêteté à nouveau, il est question d'honnêteté là-dedans, en filigrane tout du long. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. L'équité est synonyme d'honnêteté. On ne cesse de nous dire qu'il n'y a pas d'absolu. C'est faux. Et c'est Dieu qui définit le bien et le mal, pas l'homme. Il n'y a pas plus absolu que le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Dans la vérité, ou dans l'honnêteté, devrais-je dire, il y a la vérité en tout. Il n'y a pas d'illusion, de subterfuge, de tromperie, de corruption, de supercherie. Est-ce que nous nous trompons nous-mêmes? Oh oui, nous nous trompons nous-mêmes. Cela nous arrive. Souvent, à vous de d'évaluer la situation. Dieu nous dit par la bouche de Paul, 2 Timothée chapitre 2, verset 15, ce qui suit. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 15. De Timothée chapitre 2 et le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou une femme éprouvée. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pouvons-nous regarder les gens droit dans les yeux? Qui voyons-nous? Que voit-il dans les nôtres? Une entière sincérité? Proverbe chapitre 4, verset 25. Proverbe 4, 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Proverbe 12, 22, quelques pages plus loin. Proverbe chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Agir avec vérité, c'est agir avec une entière honnêteté, sans le moindre détour, sans le moindre mensonge. Il est facile pour nous de nous mentir à nous-mêmes, c'est très facile. Et nous le faisons probablement plus souvent que nous le pensons. Vous savez, je n'aime pas les demi-vérités, comme on les appelle. Je n'aime pas quand on me dit « ce n'est pas tout à fait juste, mais ce n'est pas tout à fait faux ». Pour moi, les demi-vérités sont aussi des demi-mensonges. Et l'on se trouve dans un « no man's land » où rien n'est vraiment convenablement défini. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Et l'honnêteté n'est pas l'apanage d'un milieu social particulier. Pas besoin d'être riche ou honnête. Ou je devrais dire, pas besoin d'être riche pour être honnête, c'est ce que je veux dire. En fait, ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que les riches sont souvent moins honnêtes que les pauvres. Et quand un pauvre est honnête, il est riche aux yeux de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 1. Nous étions les Proverbes. Proverbe chapitre 19, quelques pages plus loin. Proverbe chapitre 19 et le verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. La vérité est ce qu'il y a de plus honnête. Et l'honnêteté totale qu'est la vérité nous affranchit. Avons-nous besoin d'être affranchis? Avez-vous besoin d'être affranchis? Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8 et le verset 32. Qu'a dit Jean? Qu'a dit Christ, plus exactement? Jean chapitre 8 et le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, l'honnêteté nous apporte la vraie liberté. Si nous sommes honnêtes, nous disons la vérité et nous sommes spirituellement affranchis. Nous ne sommes plus des esclaves. Paul nous dit de pratiquer une ligne de vie caractérisée par une entière honnêteté. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul nous ouvre ici une fenêtre sur l'honnêteté telle que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ la conçoivent. Incidemment, j'espère que vous voyez d'ores et déjà le lien étroit qui unit l'humilité à l'honnêteté. On est vraiment honnête que si on est humble. Et quand on se donne de l'importance, on se ment à soi-même et on se fait des illusions. C'est pourquoi, écrivit Paul, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16, notez-le simplement. L'honnêteté est aussi ce qui nous donne une bonne conscience. Et pour avoir bonne conscience, nous devons demeurer humbles et ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Un autre domaine impliquant notre honnêteté, nos paroles, nos propos, et par voie de conséquence, nos écrits aussi. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques chapitre 1 et le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cette femme est vaine aussi. Quiconque trompe son cœur est malhonnête. La Bible met l'accent sur la malhonnêteté et sur l'honnêteté. Si nous recherchons en tout point la vérité, nous devons semer la vérité. Nous devons faire preuve de sagesse et nous souvenir que nos erreurs et nos péchés nous éloignent de notre Père céleste. Examinons encore quelques passages dans lesquels il est aussi question d'honnêteté. Je le répète, il est important que nous soyons honnêtes. Honnêtes avec les autres, mais aussi et surtout avec nous-mêmes. Et que nous ne nous bercions pas d'illusions. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Paul est direct. Vous allez voir dans ce passage que vous connaissez. Il est direct. Il n'y va pas par quatre chemins. Galates chapitre 6 et le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il est aussi question ici d'honnêteté, frères et sœurs. Il y a deux sortes d'individus, ceux qui minimisent tout ce qui n'est pas une importante décision et ceux qui impliquent Dieu en tout dans leur vie. Il s'agit de deux extrêmes. Soyons équilibrés. Rappelons-nous que Dieu ne fait pas du babysitting. Il s'attend à ce que nous agissions en adultes, quitte parfois à prendre des risques et assumant nos responsabilités. Mais il nous rappelle que nous devons en tout point rechercher la perfection. Et il nous dirige vers un juste équilibre. Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16 et le verset 10. Celui qui est fidèle, nous pourrions remplacer fidèle par honnête. Celui qui est fidèle ou honnête dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste ou malhonnête dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu attache parfois de l'importance à des petits détails. Sans être pointilleux, tâchons de toujours bien faire les choses, cherchant à rendre gloire à notre Père céleste, même dans ce qui, pour beaucoup, n'a pas d'importance. À nouveau, Dieu regarde les petits détails. Quelquefois, ces détails ne sont pas importants, mais quelquefois, ils le sont. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, disait David dans le psaume 51 que nous connaissons bien. Et Paul a écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, dans lequel l'honnêteté se fait rare. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 2, vous connaissez le passage, Romains 12, 2. Paul a également dit « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Professant la vérité, prophétie, il est question de Éphésiens chapitre 4, verset 15, si vous voulez noter, Éphésiens 4, 15. Mais professer la vérité dans l'amour, c'est être honnête, physiquement et spirituellement, honnête avec les autres et honnête avec soi-même. Quand Paul écrivit au jeune évangéliste Timothée, il lui parla aussi d'honnêteté. Et dans beaucoup de ces passages, on ne voit pas le mot honnêteté proprement dit, mais c'est de cela qu'il est question. De Timothée chapitre 2, verset 15. De Timothée chapitre 2 et le verset 15. De Timothée 2, 15. L'honnêteté est un thème qui est souvent évoqué dans les Écritures. De Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Dispenser droitement la parole de la vérité, c'est dispenser honnêtement en disant la vérité, en la disant aux autres et en se la disant à soi-même. Et ne partons pas du principe que nous avons raison. Il y a toujours tellement de personnes aujourd'hui qui estiment qu'elles ont toujours raison. Et il n'y a pas moyen de les atteindre. C'est un problème. C'est un problème dans notre monde et quelquefois c'est un problème parmi nous aussi. Sachons être humbles. Sachons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne savons pas tout. Il est bon d'être convaincu d'avoir la vérité, mais il est dangereux de se dire que l'on a toute la vérité. Dieu seul a toute la vérité et notre compréhension est limitée. Nous pouvons être sincères. Il y a des choses, je me souviens, dans le passé, j'étais sincère et je me disais que j'avais raison. Et des années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais sincèrement tort. Et je pense que ça nous arrive à tous. Nous changeons d'avis parce que nous croissons, nous apprenons des choses. Soyons accessibles, soyons malléables, nous avons besoin de cela. C'est une sorte d'honnêteté que Dieu veut que nous ayons. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7 dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. » C'est toujours valable. Ce que Salomon a dit ici, c'est toujours valable aujourd'hui, et peut-être même encore aujourd'hui plus que jamais. Dans son sermon sur la montagne, Christ parle aussi d'honnêteté. Dans Marc 7, versets 20 à 22, il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Il est question à la fois de ce qui sort de nos bouches et de nos pensées, lesquelles se traduisent par certains comportements qui, incidemment, lorsque nous avons ces pensées iniques et ces comportements malsains qui sont décrits ici, sont tous malhonnêtes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, est-il écrit dans Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Nous connaissons ce passage. C'est le sermon sur la montagne, c'est la base même du vrai christianisme. Le sermon sur la montagne, nous devrions le connaître par cœur, c'est la base même, c'est ce qui compte le plus dans nos vies. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, avoir le cœur pur, c'est être honnête. Et d'autres choses, évidemment, mais c'est déjà être honnête. N'oublions pas non plus ce que nous dit Jacques. Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3 et le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La duplicité et l'hypocrisie sont des raisonnements et des comportements malhonnêtes. Ils n'ont rien à voir avec la vérité. Nous autres humains, hommes et femmes, sommes arrogants et présomptueux. Nous tous, hommes et femmes, nous sommes tous arrogants et présomptueux, dans une certaine mesure. Paul nous le rappelle au cas où nous penserions que cela ne s'applique pas à nous. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6 et le verset 3. Galates chapitre 6 et le verset 3. Si quelqu'un, homme ou femme, pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, oh, c'est intéressant, pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. L'attitude de quelqu'un qui est converti est empreinte d'humilité. Paul parle encore d'honnêteté quand il écrit ceci aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute bonne conscience devant Dieu. La troisième qualité que nous devons acquérir si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu et connaître un jour la gloire de Christ, comme le dit l'Écriture, c'est le courage. Le courage. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, disait à juste titre Nelson Mandela. Il faut savoir risquer la peur comme on risque la mort. Le vrai courage est dans ce risque, disait George Bernanos. Le courage existe seulement où il y a du bon sens et non l'emportement irraisonné d'un moment. Dans un coup de tête, on ne peut accomplir une action d'éclat, mais le vrai courage exige de la patience et du renoncement, disait René Ouvrard. Le courage est cette qualité supérieure qui nous permet de faire face d'un cœur égal aux multiples désagréments de la vie. Aller de l'avant, ne jamais reculer devant les difficultés, voilà le courage véritable, disait Sangaré Oumar. Et François de La Rochefoucauld insistait sur le fait que l'on fait preuve de courage quand on a peur. Il a dit « On ne peut répondre de son courage quand on n'a jamais été dans le péril. » Quelqu'un qui n'a pas peur ou qui est inconscient n'est pas courageux. Cela ne fait-il pas un peu peur quand nous cherchons à être honnêtes, frères et sœurs? Ne faut-il pas du courage pour affronter ses faiblesses et ses péchés? Ses propres faiblesses, ses propres péchés. Plusieurs auteurs ont bien précisé que le courage s'observe quand on a peur. Et la peur n'est pas une mauvaise chose. Elle accompagne une honnête prise de conscience. Le courage est la peur qui fait ses prières, disait Paulo Coelho. Intéressant. Le courage, c'est de faire ce qu'on a peur de faire. Il ne peut y avoir de courage sans peur, dit un vieux dicton. C'est à la peur qu'il surmonte qu'on mesure le courage, a écrit Jacques Ferron. Ferdinando Galiani va même plus loin. Selon lui, le courage est l'effet d'une très grande peur. Pour Albert Camus, le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. Vauvenargues disait « Le courage est la lumière de l'adversité ». Roger Martin Dugard était, lui, partisan d'aller au-devant du danger quand on peut l'éviter. Il disait « Le courage, le vrai, ce n'est pas d'attendre avec calme l'événement, c'est de courir au-devant pour le connaître le plus tôt possible et l'accepter. » Ces quelques citations nous aident à mieux cerner le sujet du courage. Vous et moi, nous avons besoin de courage. Nous allons avoir besoin de courage dans les mois et les années à venir, face aux persécutions qui ne manqueront pas de venir, de nous affecter, tous. L'humilité, l'honnêteté et le courage sont trois qualités fondamentales qui sont intimement liées les unes aux autres. Elles dépendent les unes des autres. Pour être humbles, nous devons être honnêtes et avoir le courage de faire le nécessaire pour changer. Pour être honnête, nous devons être humbles et avoir le courage de voir les choses en face. Pour être courageux, nous devons aussi être humbles, humbles, mesurant à quel point nous sommes vulnérables et dépendons de Dieu. Et nous devons évaluer honnêtement notre situation. Deutéronome chapitre 31 et le verset 3. Deutéronome 31 et le verset 3. Les enfants d'Israël avaient peur. Ils étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient et savaient des nations qu'ils allaient devoir vaincre. Il n'y a rien de mal à avoir peur, mais nous devons avoir du courage et nous en remettre à notre Père Céleste. Deutéronome 31 et le verset 3, « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. » L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Chose qu'ils ne firent pas, incidemment. Fortifiez-vous. Ayez du courage. Ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. » David connut aussi la peur. Il essayait de se raisonner quand il écrivait le psaume 27, il essayait de se rassurer. Il savait que l'Éternel était son bouclier, son vrai refuge, terme qu'il utilise souvent dans ses psaumes. Psaume 27 et le verset 1. Psaume 27 et le verset 1. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais David précise dans le psaume 56 en qui il se confiait quand il avait peur. Psaume 56, verset 4. Psaume 56, quelques pages plus loin. Psaume 56 et le verset 4. Ou les versets 4 et 5. Quand je suis dans la crainte, ah! Quand je suis dans la crainte, ça lui arrivait lui aussi. Lui aussi avait peur. Il était dans des situations dangereuses, bien souvent. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. En toi je me confie. C'est normal d'avoir peur, mais en qui nous nous confions? En qui nous nous confions? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Vous et moi avons reçu le Saint-Esprit qui est une puissance merveilleuse, positive, constructive. Utilisons-la et pour en avoir davantage, approchons-nous de Dieu et faisons ce qu'il nous dit. Et il nous en donnera davantage de cette puissance. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul nous dit encore, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est 1 Corinthiens 16, 13. Psaume 23. Puissions-nous avoir le cœur de David qui, bien que terrifié parfois, avait le courage d'affronter le danger et les épreuves. Psaume 23, cantique de David. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel était avec Israël et il sera avec nous. Ésaïe 41, verset 10, Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cela s'appliquait à cette époque-là et cela s'applique à nous aussi, frères et sœurs. Nous pouvons demander à Dieu d'appliquer ses bénédictions, ses promesses qu'il a faites. Mais à nouveau, pour que Dieu agisse en nous, nous devons être proches de lui. Nous devons être humbles, nous devons être honnêtes, en plus d'avoir du courage. Tout cela se tient, ces trois qualités se tiennent. Ce sont des qualités très importantes dans notre vie. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Et nous commencerons au milieu de la phrase, la deuxième partie de la phrase. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Je voudrais que nous terminions par Éphésiens chapitre 5 et le verset 25 maintenant. Éphésiens chapitre 5 et le verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Avec ces qualités que nous développons en nous, nous nous purifions. Christ nous lave, Christ nous purifie quand nous avons ces trois qualités importantes, que sont l'humilité, l'honnêteté et le courage. Trois qualités très importantes. Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Nous avons vu ensemble la parole aujourd'hui, sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Tâchons de prendre ces choses à cœur, afin de nous purifier, pour paraître devant lui saint et irréprochable. Rappelons-nous que Christ faisait preuve d'humilité, bien qu'étant Dieu, qu'il était toujours à 100% honnête, disant toujours la vérité, et qu'il faisait preuve d'un courage extraordinaire, notamment quand il fut mis à mort. Jusqu'à la dernière seconde, il fit preuve d'un courage extraordinaire et d'un caractère extraordinaire. Voyant sa mère, il se soucia encore de sa mère. Il dit à Jean, « Occupe-toi de maman. » Incroyable qu'il pensait encore aux autres alors qu'il était au trépas, alors qu'il souffrait terriblement. Incroyable ce Dieu que nous avons, incroyable ce Christ. Il faisait preuve d'un courage extraordinaire. Il est notre vrai héros. Il y a toutes sortes de héros aujourd'hui. Mais ce ne sont pas réellement des vrais héros. Notre vrai héros, c'est Christ. Un homme remarquable. Un homme absolument extraordinaire. Un vrai héros. Voilà notre vrai héros. Celui qui avait réellement du courage. Ces trois qualités sont essentielles à notre croissance spirituelle, frères et sœurs. Assurons-nous que nous les développons afin d'obtenir un jour la gloire éternelle et la vie éternelle auprès des deux êtres les plus extraordinaires et les plus merveilleux de l'univers. Notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre modèle à tous et notre frère bien-aimé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis au revoir et à bientôt.